Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur RFI bien sûr et pour évoquer l'actualité de la planète football avec, pour refermer cette semaine consacrée à la Ligue des Champions, eh bien retour sur la soirée d'hier. Et les Merengues encore et toujours là, qualifiés en quart de finale auprès d'une prestation à minima. Le Real a éliminé l'Atlético de Madrid au tir au but, une séquence qui soulève polémique et interrogation autour de l'annulation du tir de Julian Alvarez. Nous tenterons de vous expliquer ce qui s'est passé. Les Colchoneros sont furieux. Se heurtent-ils à un cap psychologique lorsqu'ils rencontrent dans cette compétition le Real ? La grande déception lilloise, les Dogs du LOSC ont été battus par le Borussia Dortmund, finaliste l'an dernier. Éliminés chez eux en huitième de finale, ils sont amers d'avoir laissé passer leur chance. Quel bilan tirer de leur parcours européen ? Et puis nous irons faire un tour du côté du Caire avec un retour sur la 14e assemblée de la Confédération africaine de football. C'était hier, le président sortant, Patrice Motsepe, a été reconduit à son poste. Samuel Eto'o fait son entrée au COMEX, le comité de la CAF. Et il y a de nouveaux représentants africains qui ont été élus au Conseil de la FIFA. Alors tout sur les enjeux de cette Assemblée Générale. Et Olivier Pron nous rejoindra pour évoquer cette Assemblée Générale. Mais pour l'instant, dans ce studio, nous comptons sur d'autres camarades pour mener les débats. Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour aussi Patrick Juillard.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Et puis Étienne Moati est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Étienne.
Bonjour Annie.
Tout va bien ?
Très bien.
Oui. Il refait froid. Il fait froid dans le studio, un peu à l'image de ce qui se passe dehors, mais bon.
On va mais la chaleur de la Ligue des Champions est là pour nous réchauffer.
On va voir ça tout de suite. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission et Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Ce choc de titans, Atlético, Real Madrid, un but d'avance pour le Real Madrid. Avec De Paul, le centre de Paul. Et à bout portant, ça n'a pas très bon. 28 secondes seulement. L'Atlético a déjà remonté son handicap.
Et c'est terminé. La qualification va se jouer au tir au but.
Non vale el gol. Non vale el gol. Talavera, non vale el gol de Julián Álvarez.
Et c'est raté. Et c'est raté. Donc regardez, le pied d'appui. Et ensuite le pied droit.
Il Metropolitano qui contient la respiration.
Si Rudiger, trop au black, c'est gagné pour le Real. Et c'est gagné justement.
Con suspense, Rudiger la tronco black à point de...
Et bien le Real Madrid continue son aventure en Ligue des Champions. L'Atlético est éliminé.
Un résumé de ce choc des titans, comme ils disent, de cet Euro Derby avec nos camarades de Canal+, qui retransmettent exclusivement ces matchs en France. Alors l'Atlético Madrid, vous l'avez entendu quand même, n'a pas perdu son match hier soir dans son stade, vainqueur 1-0, ce qui mettait les deux équipes à égalité sur l'ensemble de l'aller-retour. Mais il fallait un vainqueur et ses supporters albirojos sont donc sortis du Metropolitano les yeux rougis, éliminés au tir au but de cette Ligue des Champions par leurs adversaires les plus coriaces, hein, ceux du Real, qui les écartent systématiquement de la compétition lorsqu'ils se rencontrent depuis 1958. Alors avant d'en venir au déroulé de la rencontre, on va tout de suite évoquer le sujet qui provoque discussion polémique depuis hier. On reçoit des messages, il y en a aussi sur la page Facebook. Ce tir au but de Julián Álvarez, le deuxième de l'Atlético. Il trompe d'abord Thibaut Courtois, mais la VAR intervient et fait annuler ce tir et ce point, ce qui a mis Diego Simeone en furie.
Et quelqu'un présent ici a-t-il vu que Julián a touché deux fois le ballon ? Allez, qu'il lève la main. Qu'il lève la main. Allez, allez, allez. Levez la main. Qu'il lève la main. Personne ? Qui m'assure que Julián l'a touché deux fois ? Personne ? Allez, question suivante.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
Alors ça, c'est la
c'est
petite...
C'est métaphysique. Là.
N'est-ce pas? Mais il vaut mieux toujours sortir par un trait d'humour, n'est-ce pas?
Effectivement.
Le foot n'est qu'un jeu, il ne faut pas non plus toujours tout remettre en cause. Cependant, Salim Bouamghali, vous l'avez vu, vous, ce double contact?
Non. Sur le coup, on ne le voit pas, en fait. Sur le coup, on ne le voit pas. Alors, je vais être très clair. Sur le coup, on ne le voit pas en vitesse
réelle. Après, ceux qui étaient prêts, des joueurs, l'ont vu.
Mais justement, c'est très particulier. Je vous explique la situation. J'avais l'un de mes amis qui était juste derrière cette cage, justement, qui était à la hauteur de Thibaut Courtois. Je précise là, vous allez comprendre dans un instant.
Il est grand, Thibaut Courtois.
Certes, mais...
Donc, il était dans les buts avec Thibaut Courtois, parce que sur la même ligne que Thibaut Courtois...
Oui, avec Thibaut Courtois. Enfin, derrière la cage, pardon, Thibaut Courtois. Et ce que je veux dire, c'est que Thibaut Courtois, est-ce qu'il voit ou pas qu'il y a le double contact? On ne saura jamais vraiment. Sauf que mon ami, qui est, je vais l'admettre, fan du Real, mais il était derrière la cage, donc avec les fans de l'Atlético, il ne pouvait pas trop montrer sa colère ou sa joie. Bref. Et là, il me raconte, en fait, c'est Thibaut Courtois qui tout de suite dit 2-2. Sous-entendu, avec son doigt, il montre le 2, ce qui fait que les joueurs du Real qui sont dans le rond central vont voir le 4e arbitre en disant 2-2-2-2, sous-entendu. Donc je vous corrige presque en vous dites
double
c'est
contact,
la VAR qui a corrigé, je ne sais plus comment vous avez formulé ça, j'ai presque envie de dire, c'est ce qu'on a vu, c'est une rareté. C'est les joueurs qui ont demandé la VAR. Parce que, est-ce que la VAR va aussi vite? Parfois, on galère pour savoir s'il y a hors-jeu ou pas pendant 2, 3, 4 minutes. Là, en 20 secondes, ils ont réussi à voir que la balle avait effleuré, parce que c'est le cas, le pied gauche a légèrement effleuré le pied droit. C'est un fait, avant que le pied droit touche le ballon. On sent la VAR est allée vite, dis donc.
Il y a certains
j'ai l'impression que c'est les joueurs qui ont réclamé la VAR.
Dans certains clubs, les joueurs arbitrent à la place de l'arbitre. C'est souvent des gros clubs, hein. Étonnamment.
Vous allez nous faire du Xavier Barret,
Moi, en fait... Sur ce fait de jeu, pour moi...
Mais il touche la balle deux fois.
Voilà,
ça,
il touche la balle deux fois, donc la règle veut
Vous avez des bons yeux, messieurs.
Non, mais
grâce au ralenti, au méga ralenti.
Quand il y a un quart de mollet qui est sifflé pour hors-jeu, comme on l'a vu l'autre jour sur le match du PSG, n'est-ce pas, on dit qu'il y a hors-jeu.
C'est
donc,
ça.
Je veux dire, c'est pas toujours visible à l'œil. À partir du moment où on accepte l'existence de la VAR.
Je suis d'accord, seulement, à mon sens, c'est peut-être... Rien ne prouve ce que je vais dire, mais dans le cas inverse, si ça avait été pénal, ça n'aurait pas été sifflé. C'est là le problème, et ça n'avait pas été sifflé contre Lionel Messi.
Alors,
à la Coupe du Monde,
il y a quand même
avec le même arbitre central.
Certains clubs ou certaines équipes sont plus égales que d'autres devant la VAR. C'est ça le problème. C'est pas le fait que la VAR parfois soit millimétrique.
Et il y a eu un temps, on a ressorti des exemples, enfin tout le monde, des confrères, ou un certain Riyad Mahrez, qui jouait alors pour Leicester, contre Manchester City, eh bien, il avait aussi vu son pénalty annulé pour cause de double contact.
On a d'autres, par exemple, qui avaient été acceptés. Didier Drogba, à l'époque d'un 16e de finale de Coupe UEFA, Marseille Dnipropetrovsk, il marque son pénalty en touchant la balle à deux fois, frappe du droit, ça touche le pied gauche, ça rentre, l'arbitre dit rien, 1-0. Match retour 0-0, Marseille se qualifie pour ce but qui est absolument non valable.
Alors on a vu Kalianoglu aussi dans un match de la Turquie en Islande, pareil, il glisse et donc alors lui il est retiré si je me trompe pas.
Non, refusé.
Alors on va demander à l'arbitre d'ici parce que comme il connaît bien les règles, les instances et tout ça. Étienne, est-ce qu'il y a scandale pour vous?
Pour moi, il n'y a pas scandale, mais j'aurais préféré que ce but soit accordé, parce que franchement, même si j'ai face à moi donc des gens qui ont une vue 12 sur 10...
Grâce au ralenti,
sur 10,
j'insiste.
Moi-même, avec le ralenti, et franchement, j'ai regardé, et les commentateurs de Canal, les gens qui étaient en studio à Canal, qui ont aussi regardé 4, 5, 6 fois donc, les ralentis, il n'est jamais vraiment évident que ce double contact ait vraiment eu lieu. Donc franchement, à ce niveau de sophistication, je pense qu'il eût été préférable que ce soit validé.
Donc d'autant le Real est favorisé?
Le Real pense qu'ils sont victimes d'un complot en Espagne, puisqu'ils s'en prennent à l'arbitrage et ils considèrent depuis le début de la saison qu'il y a une conspiration anti-Real.
Là, on était sur la scène européenne
Si on regarde ce qui se passe globalement, sur 10, 15, 20 ans, 30 ans, même peut-être plus pour le Real Madrid, on peut en effet plutôt observer que le Real est en général un peu favorisé par l'arbitrage. Je ne pense pas qu'il y ait un complot qui favorise hier soir le Real, mais je pense que ce qui est possible, c'est qu'en effet, le fait que le VAR ait été alerté. Alors, le VAR regarde un petit peu toutes les actions. C'est pas parce que les joueurs se manifestent sur le terrain qu'il n'y a pas eu donc une surveillance du VAR. Mais peut-être que cette surveillance du VAR sans le foin qui a été fait par les joueurs du Real Madrid en Mondiovision, peut-être, ils auraient laissé passer.
Ils ne seraient pas allés chercher plus loin.
Voilà. Et là, franchement, on a le sentiment, c'est vrai quand même que l'intervention du Real a posé quand même dans
le débat. Je me souviens que pendant un moment, on réclamait sans cesse de la position du talon ou du pied ou du bout de la chaussure des gardiens sur la ligne. Vous vous souvenez, pendant un moment, combien il y en a. Alors, c'était un effet de mode, comme ça,
il y en a eu plusieurs. Il y a des lubies passagères.
Oui, hein, qui avaient été retirées.
Juste, je précise sur les ralentis, c'est parce que vous avez des spécialistes qui font image par image et qui ont réussi à nous faire comprendre, à faire visualiser.
Et on en revient toujours. Donc,
mais
en
des
fait,
images qu'on n'a pas forcément en télé.
On en revient toujours à ce qui se passe aujourd'hui avec le VAR. On l'oublie parce qu'en effet, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. C'est censé simplement venir corriger une erreur manifeste des arbitres. Est-ce que là, il y avait une erreur manifeste à accorder le tir au but d'Alvarez? Non, pas du tout.
Sur les hors-jeux, on se pose souvent la question.
Puisque c'était quasiment invisible. Voilà, donc il aurait été préférable de maintenir ce qui avait été la décision initiale des arbitres.
Ce qui me gêne juste, c'est que, encore une fois, on a dû attendre très tard le soir ou le lendemain matin pour voir ces super ralentis pour visualiser cela. La VAR l'a donc défini en 20 secondes, ça allait très vite. 20 secondes, ils avaient le super ralenti qui confirmait ça. Pardon, je vais être très suspect dans cette situation et me dire, c'est très bizarre quand même de se dire qu'en 20 secondes, ils ont réussi à trouver la solution et à trouver la bonne image. Bravo.
Bon. En tout cas, ils ont donc perdu cette séance de tir au but, sans doute déstabilisée aussi moralement.
Ça monte assez haut parce que ça touche le Real et un match entre le Real et l'Atlético, un match capital pour la suite de la Ligue des Champions. L'UEFA a réagi là cet après-midi en disant que l'arbitrage avait eu raison de refuser ce but puisqu'il y avait eu double contact, mais toutefois qu'ils étaient prêts à examiner éventuellement le cas des contacts minimes pour éventuellement réviser la règle.
Donc, comme l'histoire des mains qu'on révise sans cesse.
Oui, et du coup, ça va encore compliquer la tâche des arbitres. Puis si on dit...
Et ça veut dire quoi, minime?
Voilà, que veut dire minime? Donc, je pense qu'on va en train encore d'ouvrir une nouvelle
boîte de Pandore.
Voilà. Typiquement, à la limite, cette boîte-là, il ne faudrait pas l'ouvrir. Non. Et Étienne le disait bien, là, typiquement, il y a la règle et l'esprit de la règle, on a envie de dire. Mais au moins, c'est clair. C'est blanc ou noir.
Je vous lis exactement ce qu'a dit l'UEFA. L'UEFA engagera des discussions avec la FIFA et le board pour déterminer si la règle doit être revue dans le cas où une double touche est clairement involontaire. Donc, trouver si c'est clairement involontaire.
Ah ouais, ça se trouve, il y en a qui fera pro de manière volontaire. Ouais.
On est d'accord, en tout cas, le Real n'a guère brillé sur la pelouse de l'Atlético. Il a bien résisté, certes, aux assauts des Colchoneros après avoir encaissé un but de Gallagher. Alors là, c'était à la 28e seconde. Donc ça a été rapide. Les Madrilènes se sont créés très peu d'occasions. Ils n'ont pas réussi à percer ce mur de défense dressé, et on en a l'habitude, par les hommes de Diego Simeone. Est-ce une qualification à minima? Et on va écouter Aurélien Tchouaméni au micro de notre correspondant Pierre Chaperon, parce que vous allez l'entendre, il reconnaît les lacunes de son équipe.
Compte tenu de la physionomie du match, de gagner au penalty, c'est pas ce qu'on aurait préféré, mais à la fin, c'est le plus important de gagner, de continuer dans cette compétition qui nous est très chère, donc on est content, on va bien se reposer et continuer dans notre dynamique. Je pense pas que c'était un match super beau à voir, mais on est juste content d'avoir gagné ce match et de pouvoir continuer. C'est toujours difficile compte tenu de leurs caractéristiques, c'est une équipe qui défend super bien, qui laisse très peu d'espace pour nous permettre de développer notre jeu offensif, ça c'est vu, mais on est juste content d'avoir gagné. On a fait le dos rond, on a essayé de se créer des occasions, on aurait pu marquer ce penalty aussi, mais voilà, c'est juste un fait de jeu et on continue.
Juste un fait de jeu. En tout cas, cette équipe, elle n'était pas très belle à voir hier soir. Alors, on le sait, c'est toujours très difficile de jouer cette équipe de l'Atlético. Par définition, je dirais, depuis que Diego Simeone est là. Mais ils n'ont jamais pratiquement trouvé la clé. Sauf ce fait de jeu, effectivement, Mbappé renversé, penalty, et qui n'est pas transformé.
Mais n'oublions pas que l'Atlético, cette année, face au gros, donc deux fois le Real en championnat, il y a eu deux matchs nuls, à Barcelone. Ils ont gagné à Barcelone, je rappelle, il y a quelques mois, 2-1. Face au gros, l'Atlético se débrouille très bien. Mais réussit à se débrouiller très bien, j'ai presque envie de dire, en enquiquinant le jeu adverse et en empêchant le jeu de se développer. En championnat, à part quelques séquences à Bernabeu, on avait vu un Real très peu dangereux, justement.
Ah, ils ont perdu contre Getafe, je crois, le week-end dernier.
Je parle des gros, justement, c'est ça le truc, c'est que face aux grosses équipes, ils arrivent à faire ce qu'il faut, face à Bilbao également, face aux plus petits.
Quand
parfois,
ils doivent faire le jeu, c'est plus dur.
Et ils commettent des erreurs, et contre Getafe, vous avez raison, ça a été le cas. Mais face au Real, c'est vrai que c'est souvent le cas, ils arrivent à bloquer le jeu, et c'est vrai que Alors certes, il y a des individualités assez folles au Real Madrid, mais elles étaient totalement prises, surveillées. Rien ne leur a échappé à l'Atlético.
Ils ont résisté.
Non, ce qui m'a touché dans la déclaration qu'on vient d'entendre de Tchouaméni, c'est qu'il ne cesse de répéter « on a gagné », alors qu'en factuellement, ils ont perdu. Donc pour eux, seul le résultat comptait, seule la qualification comptait. Et on sent très bien que c'est un match qu'ils vont totalement oublier. Ils ne tireront aucun enseignement.
Je crois que nous aussi d'ailleurs.
Oui, ils peuvent être solides. Oui, Courtois est un très bon gardien. Ça, on le savait déjà. On n'avait pas besoin de ce match. Moi, ce qui m'inquiète pour le Real, c'est que c'est une équipe qui reste moins cohérente que l'Atlético. Alors, il y a plus de grands joueurs, de joueurs capables d'inventer des buts, de faire des différences incroyables au Real. Mais collectivement, l'Atlético est cohérent, le Real, pas du tout. Et elle est coupée en deux, cette équipe. Mais et oui. le départ de Toni Kroos, qui n'a pas été compensé, continue d'être vraiment une béance au milieu de cette équipe.
Étienne, justement, on parle des quatre magnifiques quand on parle de cette équipe du Real Madrid. Comment comprendre ? Hier soir, on a eu donc un Vinicius assez impuissant et puis qui a raté son pénalty. Mbappé, très bien muselé par la défense, vraisemblablement, ils avaient compris. Et puis Bellingham, lui, qui ne cessait d'être chafouin, un peu en
comme
colère, qui engueulait.
Oui. Il fait le taulier.
Est-ce que finalement, on est face à une équipe ?
Non,
qui joue en équipe, justement.
Ce qu'on a remarqué hier, c'est évidemment donc le manque de jeu collectif du Real, le manque d'intensité qu'ils étaient capables de mettre. Mais ce qu'on a remarqué surtout, c'est l'ambiance délétère pendant tout le match.
Et
tout
d'où
le
ça
match.
Vient, ça ?
Et ça vient de problèmes de vestiaire qu'on imaginait au début de saison, bien sûr, d'ego entre Mbappé et Vinicius, entre Vinicius et Bellingham, entre Rodrigo et les trois autres, qui, lui, Rodrigo, se considère comme déconsidéré par rapport aux trois autres.
C'est toujours lui
qui sort en premier, etc. Donc, c'est franchement la cour de récréation, c'est la cour d'école entre les stars du Real Madrid. Donc, on a le sentiment qu'il va falloir quand même qu'ils règlent un peu ça. Il y a très peu d'échanges techniques entre les uns et les autres, entre Mbappé et Vinicius, il n'y en a quasiment pas, alors qu'ils ont deux des meilleurs attaquants du monde, donc il y a un vrai problème. Pourtant, on imagine que Carlo Ancelotti, avec son expérience, avec son savoir-faire, avec sa manière très calme de gérer les uns et les autres, il va réussir à y arriver. Et pour l'instant, c'est quand même pas vraiment le cas.
Juste, on est à la mi-mars et on dit ce genre de choses à juste titre, hein, que Carlo Ancelotti va devoir trouver la solution. On se le dit depuis le début de la saison.
Début de saison. Ouais.
Au final, on a l'impression qu'il ne la trouve pas. Hein. On a vu encore le résultat et le
même
match
si,
hier.
Même s'ils sont toujours en course en Coupe du Roi, en Ligue des Champions, et qu'ils se battent pour le titre.
Tous ces soucis, avec tous ces blessés, avec toutes ces galères, l'adaptation de Mbappé, Rodrigo qui n'est pas content, Bellingham aussi. Le Real est à égalité de points avec le Barça, alors même si le Barça a un match en plus à jouer, ils sont en Ligue des Champions, ils sont en demi-finale de Coupe du Roi. Pour une équipe qui a tant de problèmes, waouh ! Moi, j'ai envie de dire chapeau, en fait. Pardon, mais vraiment.
Non, mais moi, surtout, ce qui me frappe, c'est peut-être la conséquence du fait que le Real a tout misé dans son mercato sur Mbappé. Mm-hmm. C'est les trous dans cet effectif qui obligent Ancelotti à bricoler sans arrêt. Mm-hmm. Par exemple, à utiliser Valverde, qui serait très utile au milieu dans les luttes de l'entrejeu, à l'utiliser comme latéral.
Alors ça, c'est parce qu'il y a des blessés derrière.
Oui, mais c'est pas normal. Normalement, au Real, les postes sont doublés, voire triplés, et les meilleurs sont à leur meilleur poste. C'est pas le cas, et ça pénalise l'équipe. Et chapeau quand même à elle, c'est aussi la force de l'expérience en Ligue des Champions. Ils sont très résilients, malgré tout. Ça, on ne pourra jamais leur enlever.
Et la chance aussi au Real d'avoir des joueurs qui poussent. Je pense à Raúl Asensio, qui typiquement
va
être un défenseur central qui va a priori compter dans les années à venir en Ligue des Champions.
Ouais. Etienne, l'Atlético Madrid n'a jamais perdu en Ligue des Champions sur sa pelouse. C'était donc encore le cas hier soir, même si donc, ils finissent par être éliminés. C'était le cas au Metropolitano comme au Vicente Calderón avant leur ancien stade. Mais c'est la sixième fois qu'ils sont sortis par le Real. Est-ce que psychologiquement, il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe ?
Clairement, avec le Real, il y a quelque chose parce qu'ils sont toujours à deux doigts. Ils ont fait une finale de Ligue des Champions.
Enfin,
avec un quand vous êtes supporter de l'Atlético de Madrid, que vous voyez que vous perdez à chaque fois des matchs décisifs face au Real, qui est votre ennemi absolu, donc c'est extrêmement difficile.
Adversaire, ça suffit.
À vivre. Ah non, c'est un ennemi absolu. c'est pas un adversaire, c'est pas un rival, c'est un ennemi. Clairement. Et donc franchement, je pense que c'est dans la culture club, génération après génération, ça existe véritablement. Alors, il y a eu plusieurs générations.
Un complexe d'infériorité, c'est quoi ?
Ouais, il y a quelque chose qui se passe.
Ils ont
parce
mis
que,
du temps effectivement sur le match, à arriver sur la scène.
Et franchement, ça va même se renforcer encore parce que sur le match d'hier, il y a une équipe qui est meilleure que l'autre. C'est de l'Atlético hier soir. Je veux dire, ils ont les occasions, ils sont cohérents, ils ont un jeu collectif, ils ont un état d'esprit. Tout ce que n'a pas eu le Real hier. Et à l'arrivée, c'est le Real qui s'est qualifié.
J'avais une question, Salim. C'est sur aussi cette génération Simeone fils. On a eu un des exemples. Hein. Il a trois fils. Les trois sont footballeurs professionnels.
Il
ne
peut pas le renier, celui-là, j'ai l'impression. C'est à lui. Hein.
Alors voilà, il y en a un à Naples. On l'avait déjà vu, c'est hargneux. Bon, il y en a un qu'on voit moins en Argentine. Je crois que c'est à La Plata ou à Estudiantes, un club argentin en tout cas. Mais là, celui-là, il a bien embêté Mbappé. Et on a l'impression que c'est son père sur le terrain. C'est vraiment l'antenne du père sur le terrain.
Ouais, il a beaucoup de choses du papa et pas que Giuliano, parce qu'en plus il marque des buts. Alors hier non, mais oui, il l'a fait sur cette saison, il l'a fait. Et c'est vrai que Giuliano, lorsqu'il est arrivé, en fait, je me souviens parce qu'on avait fait un
sujet. Il en marque moins qu'Alvarez quand même.
Pardon ?
Il en marque moins qu'Alvarez.
Oui, c'est certain, mais surtout.
Mais lorsqu'il, c'est argentin, tous les deux, c'est énorme.
Lorsqu'il est arrivé, dans la presse espagnole, il disait oh, c'est encore le fils de Diego, il veut nous refourguer son fils, mais bon, c'est juste parce que c'est son fils.
C'est pas simple, un fils d'eux.
C'est ça. Mais au final, il montre qu'il n'est pas que le fils d'eux. Il montre qu'il a des qualités, qu'il a une. Pardon d'utiliser le terme qui est un fait, mais une grinta, une garra qui est vraiment sud-américaine et qui est démontrée chez lui. Enfin. Il a vraiment toute sa carrière et il va se détacher du nom de Diego Simeone. Il va montrer qu'il a vraiment son nom. Vraiment, il a des qualités impressionnantes.
Mmh. Il a surtout des qualités pour jouer à l'Atlético Madrid. Parce que c'est quand même pas le meilleur joueur qui dispute cette Ligue des Champions, je veux dire, d'un point de vue personnel, technique, etc. Maintenant, il a en effet un état d'esprit, il a une combativité pendant 90 minutes. Et c'est un attaquant, mais qui fait presque plus défendre qu'attaquer. Tout ce qu'adore Diego Simeone. Parce mais que oui. Finalement, tous les ans, moi, on me vend le nouvel Atlético. Enfin, c'est en train d'évoluer, c'est plus simplement une équipe défensive. Ouais, ouais. Puis finalement, ça revient à chaque fois.
On y a malheureusement cru, et j'en fais partie, parce qu'il y a
mais c'est ta fraîcheur, c'est très beau. C'est ta naïveté parfois.
Voilà. C'est à cause de ce mercato, ou en raison de ce mercato incroyable qui avait été réalisé. Avec des joueurs arrivés, des joueurs de qualité. Et il y a eu des matchs où on a vu des choses, on s'est dit waouh, ça sort. Ouais, mais malheureusement, les adversaires, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'était des Las Palmas, des Alaves, des Retafe. Face au gros, tout d'un coup, ça se recroqueville, on met 7 joueurs en occasion défensive et on tient bon.
En tout cas, c'est vrai que la relève est assurée du côté
ouais,
des Simeone.
Oui, la relève est assurée. De toute façon, cet Atlético, au fil des ans, prend une coloration de plus en plus argentine. Hein. Si on regarde les aussi des Paul, il y a d'autres joueurs, même sur le banc, il y avait plusieurs Argentins. Donc, voilà. Donc,
c'est pas argentin, c'est uruguayen.
Voilà, il a souvent eu quand même une connotation.
Ouais, mais là, on partit.
Les Uruguayens ont le même comportement et la même gare.
Ouais, il y a aussi souvent des joueurs d'ex-Yougoslavie hein, qui sont un peu dans cette mouvance-là.
Autre résultat hier soir, plus ou moins attendu, Arsenal s'est qualifié aux dépens du PSV Eindhoven. Ils n'ont fait que match nul 2-2.
Ils avaient fait le boulot à l'aller.
Voilà, les Gunners avaient fait
mais hier, promis,
un énorme
Arsenal
score.
Arsenal doit perdre. Hein. Vraiment, le PSV Eindhoven a eu tellement d'occasions dans ce match. Bon, Arsenal a peut-être levé un peu le pied, je vous accorde, avec les 6 buts d'avance du match.
Vous avez mis l'équipe C, non, peut-être.
C'était au moins B, absolument. Sterling était titulaire, ça veut tout dire.
En tout cas, ils avaient gagné 7-1 aux Pays-Bas. Et puis Aston Villa s'est qualifié 3-0 sur le FC Bruges. Au total, l'aller-retour, ça a donné 6-1. Oui, un certain Asensio. Qui
est le deuxième joueur le plus prolifique de la Ligue des Champions depuis janvier, après un certain Ousmane Dembélé. Donc c'est un peu la renaissance des joueurs qui étaient en difficulté au PSG.
Ancien du PSG, tout comme Unai Emery.
Ils
vont se retrouver en quart de finale.
Lucadie,
ça va être sympa.
Ça promet. Ça promet. Les Lillois, eux, recevaient les jaunes et noirs après un nul 1-1 en Allemagne.
Des choses qui fâchent.
Et tous les espoirs étaient permis.
Achtelfinale, Rückspiel für den BVB in Lille.
Lille veut aller plus loin, veut défier le Barça en quart de finale.
Jonathan David mit der frühen Führung.
Ismaili pour David. Oh, Nathan David qui illumine déjà le destin du LOSC après 5 minutes.
Kirassi wird gelegt von Meunier.
Kirassi qui chute, penalty. Emretien ne s'élance et il marque le but du 1 partout. Kirassi échange avec Bayer. Bayer qui frappe la lucarne.
Von Nico Kovac und Maximilian Bayer.
C'est terminé malheureusement. La fin de l'aventure du LOSC en Ligue des Champions. C'est le Borussia Dortmund qui verra les quarts de finale et qui affrontera le Barça. C'est une immense déception.
Et cette fois, c'est pas seulement nos camarades de Canal+, et un petit mix préparé par Benoît Gouthor. Bah alors, jamais les Dogs n'ont disputé de quart de finale de Ligue des Champions. Et il leur faudra patienter encore. Hier soir, malgré le soutien de leur public au stade Pierre-Mauroy de Lille, le LOSC a perdu ce match, éliminé après avoir pourtant tôt mené à la marque. Vous l'avez entendu, Bruno Genesio et Benjamin André, en fin de match, regrettaient de ne pas avoir joué, surtout en deuxième mi-temps. Est-ce qu'ils ont vraiment manqué une très belle occasion, selon vous? Est-ce que, selon vous, Étienne, ils étaient à leur limite, en fait?
Moi, je crois pas. Je pense que là, il y a un vrai regret pour Lille, parce que ce match-là, face à cet adversaire-là, franchement, le Dortmund qui dispute la Ligue des Champions et qui est sur sa saison en Bundesliga, c'est pas une grande équipe. Dortmund.
Mais ils étaient finalistes l'année dernière, donc il y avait
oui,
quand
mais
même...
Oui, mais c'est plus la même équipe. Ouais. Et on a vu au match aller, c'était quand même très, très, très moyen. En Bundesliga, c'est pas du tout une grande saison pour Dortmund. Quand vous regardez le 11 de départ de Dortmund, c'est pas non plus extrêmement impressionnant. Donc, c'était une occasion rêvée. Vous faites match nul à l'extérieur, à l'aller, il y avait
oui,
vraiment...
On avait tous misé sur
voilà,
le match,
ils commencent déjà à avoir un peu d'expérience européenne à Lille, donc je pense que c'est une immense déception, parce que franchement, il y avait de quoi passer. Voilà, donc ils ont pas joué, ils n'ont pas assez joué. Je pense que les dirigeants lillois ont raison de le noter. Ils ont mené, presque ça les a handicapés, parce qu'ils sont arrêtés de jouer. Ils ont pensé qu'ils pouvaient...
Ils ont pensé qu'ils
pouvaient tenir le match comme ça, essayer de mettre un contre à un moment donné. Ben non, ils ont donné confiance à Dortmund, qui s'est mis finalement à mieux jouer au fur et à mesure du match.
Ils ont mené trop tôt, en fait, parce que ça leur donnait un but d'avance, ça les mettait en position idéale. Et je pense aussi que Genesio a peut-être fait des mauvais choix, il faut le dire, parce que lorsque vous avez un côté droit avec Thomas Meunier et Cabella, en termes de vitesse, quand vous avez des dragsters comme au Borussia Dortmund, vous savez que vous allez être en grande difficulté si vous laissez trop le ballon à l'adversaire. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait. C'est souvent venu de ce côté-là. Le pénalty, d'ailleurs, qui est sévère, hein, qui est sifflé pour la petite faute de Meunier sur Guirassy, vient de ce côté-là. Beaucoup des offensives sont venues de ce côté-là. Et ça a manqué. Ensuite, je pense que Lille a payé son manque d'expérience, contrairement à Dortmund, qui est habitué à jouer tous les ans au moins les huitièmes ou les quarts. Parfois, il faut un peu mettre le pied sur le ballon, calmer le jeu. Ils ne l'ont pas assez fait, à mon avis. Donc à la fin, ça fait une addition sévère parce que Dortmund était prenable. Je suis d'accord avec Étienne, Lille doit avoir des regrets. Et les changements en fin de match, l'entrée des jeunes Fernandez, Pardo ou Sarraoui, peut-être qu'ils arrivent un peu tard pour un peu... Et j'ai pas trop compris pourquoi non plus Haraldsson, qui pour moi était le meilleur sur le terrain, est sorti. Enfin, il y a des choses qui m'ont un peu échappé dans la vision de ce match.
C'est vrai que Lille peut vraiment avoir beaucoup de regrets, vous les avez évoqués, notamment ce match aller. Je rappelle que Lille faisait partie des 8 meilleures équipes européennes quand même à l'issue de la phase de Ligue. Ça voulait dire, quand même, ça dénotait quelque chose, surtout après le parcours face à l'Atletico qu'on évoquait il y a quelques instants, victoire contre l'Atletico, contre le Real, le nul contre la Juve. Enfin, il y avait un parcours affolant pour Bruno Genesio et pour le LOSC, pour au final chuter comme ça à domicile face à ce Dortmund. Ça a été évoqué par Étienne, même si encore une fois hier, alors oui, Lille a déjoué, mais Dortmund en a eu des occasions, hein. Ils ont touché la barre.
Oui. On sentait d'ailleurs qu'à un moment ça allait basculer
de la 25e minute.
Que devant, Dortmund aurait pu en marquer un 3e, un 4e facile.
Alors le président de ce club, Olivier Létang, veut quand même valoriser le parcours effectué. Cette belle aventure vaudra pour l'avenir, dit-il.
Si on nous avait dit en commençant cette campagne européenne le 6 août ou après le tirage au sort de la phase de groupe qu'on serait déçu d'être éliminé en 8e de finale, je pense qu'on aurait été satisfait. Je suis très heureux, moi, pour le club qui continue à franchir des paliers, qui continue à avancer, qui continue à avoir une expérience plus importante. On a forcément envie de revivre ces moments-là. On a envie que nos supporters revivent des moments comme cela. Et donc ça passe par être performant en Ligue 1 et finir le plus haut possible pour pouvoir rejouer cette compétition.
Alors effectivement, il faut aussi valoriser ce qui a été fait, même si la déception est énorme. Il s'agira de finir, Étienne, parmi les 4 premiers du classement de Ligue 1, ou en tout cas d'atteindre le podium. Alors, ils étaient passés cette saison, il le dit, au mois d'août, donc par les barrages. Là, s'épargner les barrages parmi les 3 qualifiés. Mais devant eux, il y a Monaco, même nombre de points, Nice et Marseille. Est-ce que vous pensez que Lille peut maintenant se concentrer et atteindre ce podium?
Oui, je le crois, même si finalement le parcours très long de Lille donc pour rejoindre la Ligue des Champions et aussi disputer donc le podium de Ligue 1, on voit que c'est une équipe un tout petit peu essoufflée. Maintenant, Je considère qu'elle a davantage d'état d'esprit que, qu'une équipe comme Monaco, par exemple, où franchement, vous ne pouvez pas...
Ou comme Nice, hein, vous pouvez le dire. Hein.
Oui, si mais bon, là. Comme tu étais là, je me suis dit, je vais essayer de les épargner pour aujourd'hui. Hein. Voilà, donc il y a...
Même Marseille, peut-être, on peut le dire.
Il y a un vrai
aussi.
État d'esprit, il y a un entraîneur, il y a tout un club qui a un ordre de marche. Donc j'aurais tendance à penser, si je n'ai pas certitude, que Lille sera sur le podium, ou au moins dans les quatre, pour et participer une nouvelle fois.
Il y a peut-être un petit joker en plus, c'est le retour programmé de Zegrova, qui était un petit peu le joueur frisson, le joueur inventif de cette équipe, qui a manqué depuis plusieurs semaines, depuis environ deux mois. Et là, il va revenir. Je pense que ça peut faire du bien. Trop tard pour la Ligue des Champions, mais peut-être que ça va leur apporter un deuxième souffle en championnat. Ils ne sont qu'à 2 points de Nice. Ils sont à égalité avec Monaco et ils sont à 5 points de Marseille.
Exactement.
Qui joue au Parc des Princes, enfin qui joue contre le PSG
c'est
ce week-end.
C'est cet autre championnat qui est en route derrière. Hein. Et Lille, théoriquement, faisait un beau futur européen.
Et on rappelle notamment Lille affrontera Marseille dans quelques semaines, à domicile. Donc ça peut compter aussi dans ces confrontations direct. C'est pour ça qu'on observera notamment...
Tout reste ouvert.
Et notamment, on observera Marseille, parce que Marseille a 3 gros déplacements parmi les matchs restants au Parc ce week-end, à Monaco et à Lille. Donc ça pourra compter effectivement.
Avant de retrouver le thème Afrique et Olivier Pron qui va faire son entrée dans ce studio, on retrouve Florence Adouni du Ghana pour Vocalize My Love. Florence Adouni, Vocalize My Love. Un autre rythme pour se transposer au Caire où avait lieu la 14e Assemblée Générale de la CAF hier, qui a été suivie notamment de près par nos amis Patrick Juillard et puis Olivier Pron qui est là. Bonjour Olivier.
Bonjour madame, bonjour à tous.
Ah oui, c'est bien d'être invité. Olivier Pron. Quoi.
C'est bien d'être invité dans Radio Foot, Olivier, n'est-ce pas?
Ah, je vois ça, de l'expérimenter.
Ça fait bizarre d'être accueilli maintenant.
En tout cas, sans surprise, le président sud-africain de cette confédération a été réélu pour un deuxième mandat. Il sera là jusqu'en 2029. Patrice Motsepe avait pris les commandes de la Confédération africaine il y a 4 ans après... On s'en souvient tous, cette présidence controversée du malgache, Hamad. Il était arrivé d'ailleurs sans adversaire, hein, poussé, on peut le dire, par la FIFA.
Il n'en a jamais eu finalement d'adversaire encore à la CAF.
Bah oui.
Mais il en a peut-être en coulisses maintenant, de plus en plus.
Est-ce qu'il reste l'homme de la FIFA qui conduit le foot africain, Olivier Étienne, Patrick.
Assurément.
La réponse est dans la question.
Assurément.
J'ai une petite formule, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en politique, il y a la Russie et la Biélorussie. Et en football, il y a Infantino et Motsepe, quoi, si vous voulez.
Non, mais clairement. Clairement. D'ailleurs, dans tous les témoignages, j'invite nos auditeurs.
Il était présent hier, hein, Gianni Infantino.
Bien sûr. C'est presque normal qu'il soit présent aux élections d'une confédération. Ouais. Je pense qu'il doit être présent à toutes les élections de confédération.
Toujours.
Bon. Je vous invite, tous nos auditeurs, si ça a été fait, à aller lire tous les papiers très intéressants et très fouillés de Ndiaye Sambe sur RFI.fr en plusieurs volets, et notamment celui publié la veille où il fait parler d'anciens membres du personnel de la CAF qui vous explique très bien que Patrice Motsepe, il est venu 3 fois en les deux premières années, qu'il dormait jamais sur place,
on a eu des échos de ces couloirs vides. Ouais,
Au siège de la CAF, on parle plus souvent suisse, italien, enfin voilà, c'est clairement une mainmise totale de la FIFA. Et le fait qu'il n'ait pas eu de candidat contre lui hier, c'est du même tonneau, bon. Évidemment.
Donc, comme la réponse était dans ma question, on va passer à l'autre.
D'ailleurs la réélection, elle est timide. Certains attendaient peut-être acclamation. Non, non. On sent quand même qu'il y a, d'après ce qu'on croit savoir en coulisses, il commence à y avoir un peu de gronde quand même au sein de l'instance.
On a souvent remarqué qu'il
y a quand même des gens qui commencent à se dire...
Quand il faut parler football, il n'est pas très à l'aise. Quoi.
Voilà.
Les questions,
et donc hier, c'était des applaudissements, on va dire, timides. Rien de plus.
Mais poli. L'Assemblée devait aussi procéder à l'élection de ses représentants au Conseil de la FIFA. Et même si certains ont voulu éviter un scrutin surprise, hein, on dit qu'il y a eu pas mal de choses dans les couloirs, eh bien, il y a eu vote. Et parmi les 6 élus, alors il y a ceux qui sont toujours là, hein, comme le Marocain ou l'Égyptien, mais par contre, il y a des nouveaux venus de petites nations du foot africain qui, elles, travaillent à corriger et leur retard et leurs infrastructures. Alors, je pense au Mauritanien Ahmed Yahia et puis il y a aussi le colonel Pelé du Niger, Olivier.
Et le Djiboutien, il ne faut pas l'oublier, Souleymane Ouabéry. C'est marrant parce que le colonel Pelé, comme Ouabéry, sont clairement les gens qu'on a essayé de faire taire ces derniers jours. Ahmed Yahia était, dit-on, un peu à la manœuvre,
de retirer leur candidature.
Bien sûr, approuvé par la FIFA. L'idée, c'était de dire, bon, allez, on ne fait pas d'élection, on va choisir les 5. Fouzilegja et Abourida, l'Égyptien, étaient sortants, donc étaient quasiment sûr d'être élu. On rappelle qu'Abourida, on a changé la règle pour lui. Hein, parce que normalement, c'était 70 ans, il en a 71. On a modifié les règles pour qu'il puisse... Il était déjà là en 2009 au Conseil de la FIFA. Hein, ça vous donne une idée de... On va dire l'expérience pour être poli.
La sagesse. Il y en a qui restent
voilà. Ahmed Yahia, on savait qu'il avait de grandes chances. Hein. Patrick, c'est un des dirigeants qui monte. Et clairement, il a des résultats. La Mauritanie s'est qualifiée à la CAN. Il y a des infrastructures. Ils accueillent le club soudanais de Florent Ibengue en Ligue des Champions, qui est hébergé dans leur championnat. Ahmed Yahia, c'était attendu. Voilà. Mais les deux autres, on avait clairement essayé de les faire se coucher.
Ouais, mais il faut surtout voir aussi qui a perdu son poste. Amadou Pinnick, c'est le président de la Fédé du Nigeria. Ça pèse beaucoup plus lourd que Djibouti ou le Niger. Ouais.
Hein. Et pourtant,
il est là depuis la nuit des temps. Il perd pour une voix. Hein.
Ouais, il perd pour une voix. Et c'est quelqu'un qui avait compté dans l'élection de Motsepe aussi.
Et puis celui qui
n'est pas faiseur de roi ces derniers temps.
Qui n'est pas élu, c'est
Augustin Senghor.
Augustin Senghor, le Sénégalais.
Une énorme claque parce que 13 voix seulement.
Ouais, c'est le plus mauvais.
Moi, je pense que lui, paradoxalement, on parle en bien de Yahia pour ce qu'il a fait pour le foot mauritanien, mais je pense aussi que Senghor, il paye paradoxalement son bon bilan. C'est-à-dire que le bilan du Sénégal au niveau sportif comme au niveau des infrastructures est excellent. C'est un président qui travaille et qui fait progresser le football de son pays. Et à mon avis, il suscite la crainte, cet homme, parce qu'il est assez rond, assez... Il donne l'impression d'être quelqu'un qui peut rassembler.
Et quelqu'un de
donc
carré
il fait
aussi.
Peur. Oui, il est
sérieux
en même temps.
Dans ses
il fait partie aussi des fondeurs
un peu peur, hein.
contre la mainmise de la FIFA. Il avait eu beaucoup de mal à se coucher il y a 4 ans parce qu'il était parmi les favoris. On était beaucoup à penser, en faisant des comptes des voix, qu'il pouvait accéder à la présidence de la CAF.
Il avait avalé une couleuvre.
Et on l'avait vu, moi, entre Yaoundé 3 semaines avant et Rabat 3 semaines après. Il était blême à Rabat. Et donc, on lui avait donné un os à ronger, premier vice-président.
Dont il a démissionné hier.
Depuis, il est... Depuis, il est désavoué, y compris chez lui, où le pouvoir en place est, lui est moins favorable. Et puis, ça fait longtemps qu'il est à la présidence de la fédération. Il voulait donc aller au conseil de la FIFA. Il avait dit, si je suis au conseil de la FIFA, je démissionne de la fédération sénégalaise. Et c'est un vrai camouflet. Là encore, on peut peut-être voir l'influence de la FIFA dans ce vote camouflet pour lui.
En tout cas, le Niger, représenté par le colonel Pelé, va donc rentrer dans ce conseil de la FIFA. Ils ont participé pour l'instant à 2 phases finales de la CAN, mais on l'a vu, on est allé sur place notamment. Il y a du travail, un centre de formation. On essaye aussi de se hisser, comme la Mauritanie et d'autres, les Comores, à un certain niveau. Écoutons-le, le président de la FENIFOOT, le colonel Pelé, au micro d'Alice Moreno, qui est notre correspondante au Caire.
Il faut qu'aussi ce qu'on appelle les petites nations de football puissent être reconnues et entendues aussi. Être au niveau mondial du football, c'est une grande première pour mon pays et j'espère que ça permettra aux gens de tourner les yeux justement en direction du football nigérien, de pouvoir se faire connaître.
Est-ce que vous avez des grands chantiers en tête déjà pour le football nigérien justement ?
Absolument, absolument. Nous sommes déjà sur des projets d'infrastructures énormes et surtout sur la formation de base, surtout donc sur les académies d'élite pour pouvoir payer des élites qui puissent aller au sommet, en fait au niveau en tout cas mondial. C'est le but pour nous parce que les Nigériens sont toujours pleins de ne pas avoir des jeunes Nigériens qui représentent notre pays, en tout cas qui émergent au niveau de la Ligue 1 française ou la Liga, etc. Donc l'objectif pour nous, c'est pouvoir arriver à ça, pour que les Nigériens soient fiers de voir certains d'entre eux, en tout cas sur les grands matchs, dans les grands clubs mondiaux.
Le colonel Pelé parlait notamment de l'objectif formation sur le continent.
Colonel major, attention.
Colonel major.
Pardon, excusez-moi, je voulais le major. S'il vous plaît. Colonel, c'est déjà pas mal.
Oui, oui.
Étienne Moati, est-ce que c'est... Quelle importance et quel poids ils ont dans le conseil de la FIFA, ces représentants du continent africain?
Ça va être vite fait, aucune importance et aucun poids. Mais je dirais qu'ils ne sont pas les seuls.
Oui, comme
en fait, le conseil de la FIFA, donc vous avez l'ensemble des confédérations qui sont représentées au conseil de la FIFA, donc c'est surtout honorifique, ils y ont droit donc d'un point de vue statutaire, c'est honorifique, c'est aussi un petit peu financier parce que ceux qui y siègent donc gagnent un petit peu d'argent et pour certains présidents de fédérations, c'est pas complètement neutre. Non. Et pas simplement pour les fédérations africaines, même pour les fédérations européennes, ils aiment bien donc être représentés parce que vous venez, vous faites le déplacement, puis vous cachetonnez, c'est plus de 200 000 $ par an, donc c'est pas si mal que ça, mais donc tous les dossiers sont préparés par l'administration de la FIFA, sont décidés par Gianni Infantino tout seul avec ses 2-3 conseillers. Et que vous soyez africain, européen, océanien ou autre, de toute manière, vous ne pesez absolument pas dans ces débats-là.
C'est simple, Gianni Infantino président. Il y a 6 vice-présidents qui sont les présidents de chacune des confédérations. Et ensuite, l'Amérique du Sud a 6 représentants, le UEFA a 6 représentants, l'Afrique a 6 représentants. Mmh. On doit être à 4 sur l'Océanie, 3-2. Enfin voilà, il y a 35 membres en tout.
Mmh. Olivier, il y a aussi donc une femme qui a été élue.
Eh oui.
Une Congolaise.
Alors ça, c'était à la CAF, mais il y a une Comorienne au conseil de la FIFA. Ouais. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Je m'étendrai pas sur le cas de celle qui était en poste avant elle, Isha Johansen, la Sierra Léonaise, qu'on n'a pas beaucoup vu ni entendu. D'ailleurs, le vote hier a été une sanction pour elle. Elle a eu 7 voix.
Ça arrange pas mal de monde qu'on la voit pas trop, vu les casseroles qu'elle traîne.
On va rester là, mais c'est facile de se renseigner. 7 voix seulement hier, 30 pour Kanizet Ibrahim, qu'on avait découvert il y a 4 ans lorsqu'elle est devenue vice-présidente de la CAF.
Première femme vice-présidente de la CAF.
Excellent travail aux Comores. C'est une sélection qu'on a vue aussi à la CAN et tout ça. Donc, c'est une juste récompense et c'est une femme qui travaille. Donc, ça, c'est une très bonne chose.
Alors, justement, venons-en au COMEX de la CAF. Il y a eu des élus. Alors, elle fait partie aussi des gens qui ont été désignés, c'est ça, à ce conseil, la Congolaise, ancienne présidente du...
Ils sont désignés quand il n'y a pas d'autres candidats. Ouais. C'est le cas pour Eto'o. on en a beaucoup parlé, nos amis camerounais aimeraient, rêvent d'une élection d'Eto'o hier par acclamation. Non, il n'y avait juste pas d'autres candidats. Donc,
voilà. Alors parlons-en du cas Samuel Eto'o, parce qu'il a été élu parce qu'il a pu être candidat grâce à une décision du tribunal arbitral du sport qui a estimé qu'il fallait le laisser être candidat en même temps.
Qui a estimé que le dossier à charge n'était pas simplement valable. C'est la CAF qui avait monté un dossier et qui ne voulait pas de lui. C'est assez rigolo d'imaginer Motsepe qui n'en voulait pas et qui hier lui faisait des
ronds de fond. On lui reprochait quelque chose de précis théoriquement, Patrick.
Moi, à mon sens,
c'est d'être l'ambassadeur d'un site de paris sportif.
Mais le contentieux est encore en cours sur ce point.
Si c'était tellement contre le règlement, il ne serait pas élu. C'est ça que je comprends pas.
À mon sens, le TAS a dit tant que ça n'a pas été jugé, on ne peut pas l'interdire. On peut accepter ou pas ce raisonnement, mais je pense que c'est ce que le TAS a estimé. Eto'o, pour lui, c'est un vrai ballon d'oxygène politiquement. C'est-à-dire que c'est un président de fédération qui est en but à
contester
la défiance de son ministère des Sports dans son propre pays, qui s'est fait imposer quand même un choix de sélectionneur, donc en l'occurrence Marc Brice, par le pouvoir. Mm-hmm.
C'était rigolo d'ailleurs, il y a une
qui là maintenant retrouve, on l'a chassé par la porte, il revient par la fenêtre à l'échelon continental. Donc pour lui c'est une grosse satisfaction. Et d'ailleurs je pense qu'il y a une certaine détente entre la Fédé et le ministère, puisque aujourd'hui la liste de Marc Brice a été communiquée. Dans l'instant, elle a été mise en ligne sur le site de la fédération, ce qui n'était pas toujours le cas lors des précédents rendez-vous.
On rappelle que Marc Brice n'a pas tout à fait enterré l'âge de guerre. Lors du tirage au sort, gratuitement comme ça, il y a eu une petite balle perdue.
Il était en roue libre.
On lui demandait s'il craignait les Ivoiriens et dans la même réponse, il nous a dit « Je ne crains ni les Ivoiriens ni Samuel Eto'o. » C'était gratuit. Ce matin, juste, on lui a posé la question. Les journalistes camerounais ont demandé « Est-ce que vous avez eu le temps de féliciter Samuel Eto'o hier ?» Et Marc Brice a dit « Non, je n'ai pas eu le temps. » Mais lui-même, moi, j'ai pas été félicité pour les qualifications, donc en gros un partout la balle au centre.
Salim, quelles peuvent être les ambitions de Samuel Eto'o là? Parce que s'il se fait élire dans ce conseil, on prête à Patrice Motsepe, et ça c'est aussi un article de Ndia Sessamp sur le site de RFI, qu'il aurait aussi des ambitions politiques dans son propre pays. Est-ce que Samuel Eto'o pourrait penser au siège de président de la CAF?
Olivier le disait il y a quelques instants, au final, il y avait un dossier qui avait été monté pour empêcher Samuel Eto'o d'être candidat, etc. Donc ça veut dire qu'on a quelques craintes à son encontre. Alors pas forcément, on verra par la suite d'ailleurs sur ses qualités d'homme qui sait faire. C'est vrai que son nom fait qu'on a peur au final de lui. Et on se dit qu'à moyen long terme, Samuel Eto'o, président d'une fédé, je rappelle que c'est déjà au final arrivé auprès
de la Confédération.
Michel Platini, il a fait une heure avec l'UEFA. Des grands joueurs réussissent à monter, donc Samuel Eto'o vise cela.
La première, vous pouvez le voir sur toutes les images, il était l'homme le plus photographié hier. Évidemment. Tous les pontes de la CAF ont voulu avoir leur selfie avec Samuel Eto'o.
Ils sont rares, les joueurs.
La deuxième chose, il ne voulait pas, qu'il se présente au comité exécutif, mais Patrice Motsepe, je le sais de source sûre, lui a proposé un poste de vice-président qu'il aurait refusé, Samuel Eto'o, au profit du Gabonais, on va vérifier ça dans les jours qui viennent.
Alain Mounguengui.
Exactement. Qui aurait dû être vice-président il y a 4 ans, qui s'était fait un peu carotter l'affaire par Sedou Mbombo-Djoya. On ne sait pas trop comment, mais ça s'est passé comme ça. Et bien là, Samuel Eto'o, et ça aussi c'est un calcul politique, il a dit « je laisse mon aîné » qui aurait dû être en place il y a 4 ans, donc Mounguengui devrait être vice-président. Mais Samuel
Eto'o, il a plutôt intérêt à, dans un premier temps, se faire
ménager.
Parce
bien sûr.
La FIFA veut des
présidents. Pourtant pas ce qu'il préfère quand même.
Non, mais il a intérêt à un peu forcer sa nature. La FIFA ne veut pas de président de confédération qui fasse de l'ombre à Infantino. Ils veulent des hommes transparents. Seferin, ça marche pas trop parce qu'il était là avant. Mais Motsepe, pour ça, c'est parfait.
J'aurais utilisé d'autres mots, mais transparence.
Voilà, donc Eto'o, ça ne cadre pas avec ça du tout. Après, Infantino n'est pas éternel, vous allez me dire. Mais pour l'instant...
Pour l'instant, il est là quand même.
Il est là. On a l'impression qu'il est là pour l'instant.
Tranquille.
Eto'o, ça ne cadre pas du tout avec
ce que veut la FIFA. Avec une Coupe du Monde, peut-être à 64, voire à 200.
La CAF, c'est la chasse gardée de la FIFA.
C'est 54 voix.
Tous les présidents de FIFA, ils veulent avoir en effet les 54 voix sans qu'il se passe rien d'autre.
C'est un cas.
N'oubliez pas, demain, c'est le Café des Sports et vos cartons vidéo sont déjà attendus par David Finzel. Et puis, il n'y aura pas de rediffusion de l'émission ce soir puisque c'est les 30 ans de Couleur Tropicale.